We're threatening the oppressors with the power of the people. I see one of the things that people in this country forget about white people is that they founded this country on overthrowing their oppressor. You know, they made a revolution. And they forget that we are carrying on a struggle which they began.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
À défaut de réécrire le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé via un texte, des archives et des musiques choisies. Retour ce soir sur l'explosion dans les États-Unis des années 60-70 du funk. Si la soul avait été la bande-son des espoirs des Noirs lors du mouvement des droits civiques, le funk et ses rythmiques endiablées marquent un pénible retour à la réalité. Cette forme d'oppression évoquée par Angela Davis en ouverture, celle des ghettos, des émeutes, de la contestation de la guerre au Vietnam et du radicalisme des Black Panthers. Le funk, cette urgence du sursaut dans lequel nous naviguerons librement ce soir depuis son géniteur, James Brown, ses principaux réinventeurs Sly Stone et George Clinton, la sensualité explosive de Betty Davis ou le groove des GBs. Ce soir, aux sources du funk, le groove, la sueur et les larmes de l'Amérique noire.
Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show.
Prenons la chose ainsi. Nous sommes en 1975, le jour touche à sa fin. Vous venez de vous réveiller péniblement, en suqué, et soudain, votre transistor se trouve piraté. Ne touchez pas à votre radio, il n'y a pas de problème, nous venons juste d'en prendre le contrôle, lance une étrange voix. Ce soir-là, vous pensiez émerger dans la grisaille du morne monde contemporain, votre bicoque loin du centre-ville, la routine d'un boulot de nuit mal payé à la station essence, votre femme qui s'est tirée avec un autre, les traites de la voiture qui s'amoncelle, et tout à coup, débarque dans vos oreilles un ovni. Concocté par une bande d'hurluberlus baptisée The Afronauts, venue tout droit de la Chocolate Milky Way, émettant depuis un vaisseau spatial en forme de Cadillac, leur radio a pris le contrôle des ondes humaines. Auto-baptisés dealers de funk, ces types veulent vous refourguer leur cam, non coupé, uncut, leur funk le plus pur, le plus festif qui soit, une musique qui parle la même langue que vous, celle de la rue. Ce soir-là, dans la salle de bain embuée de routine, vous vous mettez à esquisser un pas, puis à danser. Il est fort à parier que vous arriverez en retard au boulot.
Thank you.
Give Up the Funk 1975, extrait de Mothership Connections, un concept album délirant signé du groupe Parliaments de George Clinton, lequel se désespérait alors que le monde, gagné par les nouvelles sirènes du disco, semble reléguer aux oubliettes la révolution musicale qui s'était emparée du pays une décennie plus tôt. Présent dans l'argot afro-américain depuis le début du XXe siècle, le mot funk, funky, viendrait de la langue kikongo, parlée en Angola ou au Congo, désignant l'odeur forte mais enivrante, positive, exhalée par les sécrétions corporelles, celle d'un corps au travail. Puant de sueur, insulte traditionnelle faite aux noirs par les wasps et dont certains noirs décident de s'emparer. Tandis que Rosa Parks refuse un jour de céder sa place dans un bus d'Alabama à une blanche, un groupe de jazzmen noirs américains décide de rompre avec le style cool, ambiant alors, pour réorienter le jazz vers ses racines, le blues, les Negro Spirituals. On appelle ces années-là celles du hard bop. Ce sont les Jazz Messengers d'Art Blakey ou bien du pianiste Horace Silver qui, en 1957, publie cet opus de funk. Alors bien sûr, entre le morceau d'Horace Silver de 57 et ce que deviendra une décennie plus tard le funk, difficile d'y retrouver encore ses petits, mais disons que l'esprit, le bouillonnement est planté. Ans plus tard, donc, le funk, plus qu'une affaire de jazzmen, devient une musique à part entière, une esthétique dérivée de la soul, mais débarrassée de ses artifices vocaux ou orchestraux. Place avant tout au rythme, au tandem basse-batterie, renvoyant les autres instruments en fond de scène, cuivre ou guitare, le rythme avant tout, le beat, le groove, celui de la danse, d'une forme de trance et qui demande de l'espace. Fini les tubes de 3 minutes. Le funk s'étire sur de longs morceaux, s'appréhende sur la durée, parfois sur des albums entiers. Du côté du message, il puise dans l'argot des rues, celui des Afro-Américains. Ses paroles sont parfois politiques, mais le plus souvent prosaïquement joyeuses et dansantes, comme dans le titre suivant de 1974, signé du groupe The Fatback Band, un groupe né à Brooklyn. Ce titre, Mr. Bassman, clame « Hey, monsieur le bassiste, fais-moi bouger les pieds. »
Ladies and gentlemen, one of the funkiest bands on the East Coast, the Fatback Band. Come on.
The Fatback Band, Mr. Bassman, 1974, la basse qui bientôt se réinventera à travers le funk et la technique du slap, corde frappée et pincée, et qui deviendra l'une des signatures sonores du funk. Le funk qui donc, à ses débuts, était devenu la bande-son de l'Amérique noire ségrégée, reléguée, obligée d'en faire deux fois plus que les blancs pour y arriver. Musicalement, ce début des années 60, on ne parle pas encore de funk, mais de soul music, l'âme blessée de la communauté noire états-unienne. La soul, dont la figure montante, est alors un trentenaire né en Caroline du Sud, dans une famille pauvre, si pauvre que, gamin, il aurait été un jour renvoyé chez lui pour insuffisance vestimentaire. À l'âge de 15 ans, il s'est fait coffrer pour un vol de bagnole, condamné à une peine de 8 à 16 ans de prison. Il est finalement relâché 3 ans plus tard pour bonne conduite.
Please, 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 please.
La musique sauvera ce bad boy, le gospel d'un premier groupe, The Flames. Le gamin a tant de talent qu'il attire l'oreille de Little Richard et d'un label de Cincinnati dans l'Ohio qui lui fait enregistrer Please, Please, Please en 1956. 3 millions de disques vendus, ce type, c'est James Brown. Quelques années plus tard, nous sommes en mars 65 et James Brown veut aller de l'avant, il veut proposer un nouveau son, aller au-delà de ce que son public attend de lui. En désaccord avec sa maison de disques, il crée son propre label. Puis, pendant 6 mois, il s'enferme dans un studio avec des musiciens et des ingénieurs du son triés sur le volet. Pendant ces 6 mois, on dit James Brown court-circuité, devenu complètement parano. En fait, ce bosseur acharné travaille à la naissance d'un nouveau chapitre de l'histoire de la musique. Le titre en question s'appelle « Papa's got a brand new bag », de l'argot « bag » signifiant « mode de vie ». Autrement dit, papa vient de se trouver un nouveau style. Ce style, c'est la danse, et voici ce vieux type qui part à l'assaut de la piste.
This is a hit. Papa's in the same. It ain't too hip, but that new breed thing. It ain't no drag. Papa's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. It's a jack. He's doing the fly. Don't play him cheap, 'cause you know he ain't shy. He's doing the monkey, the mashed potatoes, jump back jack, see you later, alligator. Come here, sister. Papa's in the swing. Here to hip now.
Fly, monkey, mashed potatoes, alligator, twist, boomerang, toutes les danses ou presque sont dans ce titre. Et en cela, ce Papa's Got a Brand New Bag constitue le premier hymne funk, tant il pose un lien évident, charnel, entre la musique et la danse. Ce titre, dont le tempo avait été accéléré lors de sa sortie en 65, mais qu'on entendait ici dans sa forme originale. Contrairement aux autres musiques, le funk fait peur à l'Amérique blanche, mais pas simplement parce qu'elle ne sait pas très bien comment l'appréhender, la danser comme les Noirs. aussi et surtout parce que ces blancs sentent bien que cette musique vient de la rue, directement des ghettos, de la misère, de la violence, de la drogue. Quant aux noirs, mieux lotis, qui dansent plutôt le samedi soir, lumière tamisée dans le salon, fébrile sur le cœur brisé d'Aretha Franklin, de plus en plus sont fascinés par ce qui s'y joue alors.
Jusqu'à aujourd'hui, les Menefee, les Smiths, n'ont jamais été victimes physiquement du racisme. Ils vivent plus ou moins bien, mais à condition de rester entre eux, dans leur ville. Cela, beaucoup de noirs du Sud ne le veulent plus. C'est pour cette raison que chaque année, des milliers d'entre eux partent. Ils vont dans les grands centres du Nord ou de l'Ouest, Chicago, Détroit, Newark, la Californie, Harlem. 3000 Noirs arrivent à Los Angeles chaque mois. Los Angeles, pour eux, c'est Watts. Watts, symbole de la révolte de 1965.
Watts, l'une des deux principales zones de Los Angeles où les Noirs étaient tolérés, eux qui, depuis des années, affluaient en masse, attirés par les recrutements de l'industrie de l'armement installée dans le coin, industrie au sein de laquelle la discrimination raciale avait été proscrite et appliquée dès les années 1940. Sauf qu'à Watts, en 65, au lycée, pourtant officiellement non ségrégué, on trouve 99% de Noirs. On s'en doute, les moyens ne croulent pas. Et de fait, les deux tiers des habitants ne sont pas allés jusqu'au bout du lycée. 1 sur 8 ne sait ni lire ni écrire. Bienvenue dans le ghetto. Ces conditions de vie, les habitants de Watts les dénoncent régulièrement, manifestant pas moins de 250 fois entre 1963 et 65 pour réclamer plus de moyens, sans effet. Résultat, cet été 65, le 11 août au soir, il suffit de l'arrestation d'un jeune noir, sans doute bourré au volant, pour que ça dégénère. Sa mère, appelée au commissariat, veut lui foutre une rouste. Ça n'est pas très clair, une femme qui passe par là est bousculée, et la rumeur se répand dans le quartier selon laquelle un flic l'aurait frappé. Watts s'enflamme. Des manifestants pillent, brûlent des magasins tenus par des blancs au cri de « Burn, baby, burn, brûle, bébé, brûle ». Les organisations noires sont incapables d'endiguer les choses. En 6 jours, plus de 30 000 adultes auraient participé aux émeutes.
Ladies and gentlemen, it's star time at the Apollo Theater. $1 million seller, try me. Baby, don't you weep. Let's bring him on right now. Everybody, the hardest working man in show business, James Brown, ladies and gentlemen.
James Brown, lui, n'a pas oublié le racisme dont il a été témoin, ses toilettes séparées entre white et colored people. Mais il veut s'arracher à tout ça. Il résumera un jour le problème ainsi. Un coloré est un afro-américain qui fait peur. Un négro s'intègre dans le système, il veut être blanc. Le nègre, lui, est agité, bruyant, il veut se faire remarquer. Le noir, lui, a de la fierté, il désire bâtir quelque chose, il veut que sa race signifie quelque chose, il veut avoir une culture et des formes d'expression artistique sans être discriminé. En ce sens, je suis un noir américain. James Brown, qui se rapproche de Martin Luther King, adhère à l'influente et pacifiste organisation, la NAACP, le fait largement savoir. En juin 66, il accourt au chevet de James Meredith, un courageux noir du Sud qui avait décidé de marcher pour inciter les autres à faire valoir leur droit de vote malgré la peur et qui s'était fait tirer dessus. Plus tard, Brown s'impliquera encore davantage, n'hésitant pas à produire des chansons ouvertement politiques comme le fameux « Say it loud, I'm black and I'm proud » en 1968 qui deviendra l'hymne du Black Power. Pour l'heure, cette année 67, James Brown est revenu se produire sur la scène de l'Apollo Theater, la mythique salle de Harlem, alors qu'il vient de sortir son dernier album, Cold Sweat, considéré comme la pierre angulaire du funk. Cold Sweat, où un type rendu dingue par le désir que sa femme lui exprime, se tape une suée froide. France Culture, Jukebox, ce soir, le funk ou l'urgence de l'Amérique noire.
I don't care. About your past, I just want, baby, I love to last. I don't care, baby, about your faults. I just wanna tell you, mama.
boss. When you kiss me and you miss me, make everything all right. In the middle of the night, I break up in a cold sweat. I gotta do some more here, but look at here. I don't care about your fault. I just want to satisfy your fault. I don't care, baby, about your wants. I just got to tell you now about your do's and don'ts. Oh! When you kiss me and you miss me, oh, my head, make me understand. I break up in a cold sweat.
Cold Sweat, James Brown sur la scène de l'Apollo Theater en 1967 pour ce morceau composé avec le saxophoniste Pee Wee Ellis, dont les réponses de cuivre lui auraient été soufflées à l'écoute du So What de Miles Davis. Cold Sweat qui révolutionne la rythmique, les instruments fondant leur groove sur le premier temps de chaque mesure, en anglais On The One. Ce rythme précis qui appelle naturellement à la danse. Le funk est né, musique de l'urgence, de l'exhortation à libérer les corps, de l'impératif à conquérir cette fille, mais au-delà, de l'urgence à faire changer les choses et la cause des Noirs. Des Noirs qui, malgré les émeutes de Watts ou d'ailleurs, voient la législation évoluer dans le bon sens. Un an après l'immense marche de Washington en 63, a été adopté le Civil Rights Act, interdisant toute forme de ségrégation dans les lieux publics, sauf que son application est désespérément lente. Suivra le Voting Act en 1965. Mais pour les Noirs, une autre menace se profile à l'horizon. Harlem, 1967.
Alors les Noirs s'accrochent à ce qui pourrait les rattacher à une cause humaine dont ils ne seraient pas exclus. La mort à la guerre leur paraît en être une. Aucun Vietnamien proclame leur pancarte « ne nous a jamais appelé sale nègre ». Mais ce n'est peut-être pas tellement sur le sort du Vietnam que les Noirs s'interrogent, ou pas seulement. Leur Vietnam, c'est cette Amérique, leur pays, qui se désespère de ne pouvoir contempler que de si loin.
When I got your letter, baby, I was in a foxhole on my knees. Oh yes, I was.
Le Vietnam, où la présence militaire américaine, initiée en 64, voit une brutale accélération sous l'influence de Johnson, le successeur de Kennedy, qui lance ouvertement l'engagement massif des troupes dans la guerre, d'abord via des bombardements au Nord-Vietnam. Mais rapidement, on ne peut plus se contenter de balancer lâchement du napalm depuis des hélicos. Alors on envoie des gars au sol, et ces gars s'avèrent souvent noirs. Tandis que jusqu'alors, on se limitait aux militaires de carrière ou aux volontaires, on décide dorénavant d'y envoyer aussi les conscrits, les appelés du service militaire. 185 000 gars en décembre 65, 390 000 un an plus tard, 510 000 24 mois après. Parmi eux donc beaucoup de Noirs, souvent affectés aux unités de combat de l'armée de terre et qui, proportionnellement, le payent souvent plus cher que les Blancs. Parmi les futurs appelés, la colère monte. Pourquoi aller se faire trouer sous le tropique du cancer au nom d'une Amérique prétendant défendre la démocratie, tandis qu'elle continue de fermer les yeux sur ces Noirs qui tombent si régulièrement, beaucoup plus près, dans les États du Sud, sous les balles sournoises des racistes? Malcolm X, lui, dénonce un conflit où l'homme jaune est tué par l'homme noir se battant pour l'homme blanc. Quels sont les musiciens qui vont se frotter à la conscription et au Vietnam? En tout cas, pas Joe Tex, qui a enregistré en 67 ce « I believe I'm gonna make it ». lui, ne semble pas y être allé. Pas plus que le chanteur qui va suivre, Edwin Starr, qui, ces années 60, vit à Détroit, Michigan, et qui, en 1970, deviendra l'auteur de l'un des plus célèbres hymnes anti-guerre d'alors, War. La même année, il produit également Stop the War. La guerre, la soul ou le funk, la chante depuis l'arrière, ce qui n'enlève pas la puissance de conviction. Edwin Starr, Stop the War Now, 1970. La guerre et le Vietnam, qui sont alors au cœur des préoccupations quotidiennes de l'Amérique, comme en témoigne la caméra de Michel Parbeau pour 5 colonels à une, qui, en 1967, s'immerge dans des familles noires d'Atlanta.
Nous sommes avec la famille Smith. Monsieur Smith, 44 ans, dentiste. Madame Smith, même âge, institutrice. Deux garçons. Harvey, 19 ans. Homais, 11 ans. Ce week-end, à New York, il y a une grande manifestation contre la guerre au Vietnam. Il y a un bus qui part d'Atlanta à 3 heures et qui revient dimanche. Je voulais que tu le saches parce que j'aimerais bien y aller. Son père ne lui répondra pas. Jane fait des études de sociologie. Elle dit que sa génération accepte plus ou moins le mode de vie américain, mais que les jeunes auront du mal à l'accepter et qu'ils seront surtout plus violents. Son professeur lui répond que c'est le rôle des mères de préparer leurs enfants aux problèmes de l'existence, y compris à la guerre du Vietnam. «
La chanteuse de soul oubliée Carla Whitney pour ce War diffusé en 1975. Tandis que toujours plus de conscrits afro-américains partent au Vietnam, la philosophie religieuse et non-violente de Martin Luther King se trouve de plus en plus contestée dans les ghettos des grandes villes. Les jeunes et vigoureux militants du Black Power dénoncent le King en public. Lui, ses costumes impeccables, son pacifisme, son angélisme, tout ça ne marche plus aux yeux de la génération suivante. Malcolm X dénonce les méthodes criminelles du King. D'autant que pas un mois ne se passe sans que l'extrême précarité des ghettos noirs de l'Amérique ne saute au visage. Chicago, 1966.
Chicago, ville du Nord, vient de connaître à son tour un accès de fièvre raciale. Un incident stupide, une bouche d'incendie qui servait de douche aux enfants noirs et que l'on coupe en raison de la pénurie d'eau. Et c'est tout à coup le drame. Des troubles naissent spontanément. La police prend position et les pierres commencent à tomber ici et là.
Crois-moi, je sais ce que ça fait d'être rétrogradé quand vient le temps que tu sois promu. Je sais ce que ça fait de devoir continuer avec des gens que tu ne connais même pas, simplement parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Je suis l'outsider. Voici Underdog, l'opprimé, le loser, l'outsider, interprété par Sly and the Family Stone dans le tout premier album du groupe, A Whole New Thing, sorti en 1967. But they won't let you forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you're never right, they get uptight when you got to right, or you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know the real, but every other time, get out, you get a wrong deal. Yeah, yeah, yeah. Say I'm there. Moving up too fast, yeah. Yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limpid, and low rate, low rate me. Yeah. I'm the underdog.
I can help it.
Underdog, l'opprimé, le loser, l'outsider, interprété par Sly and the Family Stone en 1967. Sly Stone, le premier à avoir repris au bon la balle funk lancée par James Brown. Sly Stone, issu de la classe moyenne américaine, une famille évangéliste rigide mais qui encourage ses ouailles, une fratrie de cinq, à pratiquer la musique. Originaire du Texas, ils ont déménagé au début des années 50 en Californie. Là, les quatre des plus jeunes de la bande forment un premier groupe de Stewart Four, mené par l'aîné, donc Sylvester, le futur Sly Stone, âgé alors de 9 ans. Quelques années et quelques groupes plus tard, la fratrie, élargie à d'autres musiciens, devient Sly and the Stoners, puis enfin Sly and the Family Stone. Sly Stone, qui n'a rien d'un type facile, son caractère est abrupt, un peu parano, la suite de sa carrière le montrera. Mais on peut lui accorder le fait qu'il n'a aucun préjugé racial. Il s'entoure de noirs comme de blancs, d'hommes comme de femmes. En 67, le groupe sort donc un premier album, puis l'année suivante, le single Everyday People, cri de révolte envers les préjugés en tout genre. Cette année 68, où un séisme allait de nouveau secouer cette Amérique ébranlée.
Harlem, mercredi 3 avril, 20h. Il fait chaud, on flâne, on discute dans la 125e rue. Par les fenêtres grandes ouvertes des maisons en briques rouges, c'est tout un concert de radio, de télévision qui déverse leur musique et aussi leur slogan publicitaire. 20h donc, toutes les musiques s'arrêtent, les chaînes de radio et les chaînes de télévision donnent tout le flash spécial, le special report. Luther King est mort, il a été assassiné par un raciste blanc.
Tandis que les ghettos s'embrasent, certains se découragent. Ainsi que le chante la chanteuse Marva Whitney, originaire de Kansas City, qui en 67 avait rejoint l'orchestre de James Brown et qui, cet été 68, enregistre son épuisement. « J'en ai marre, dit-elle, de travailler pour rien, d'être traitée comme une souillonne, de devoir être femme de ménage, je veux un vrai boulot. Vous ne pouvez pas juger un homme à la couleur de sa peau. Voici « I'm tired », signé Marva Whitney. »
I'm tired of having to be a maid, and now I want a real, real job. I'm tired of my man giving up his best years, and still he doesn't have nothing. I'd rather drown in my own tears. I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired. According to faith, things better change before it's too late. About the boogeyman, you know I've heard that song so much. Even when I dance, I use all the soul I can. I may not get another chance. I'm tired, I'm tired, I'm so tired, I'm so tired. But you know, according to faith, things better change. But before it's too late. To take us back 100 years. As long as I can remember, we've always been in the arena. You can't judge a man by the color of his skin. It's what he knows and who he knows and where it's going and where it's been. As long as a person can reduce the odds, you gotta give him the credit for what's more. A soul man, a soul man took his life. Dr. King, he died for us.
secondes, 8 dixièmes.
Aux États-Unis, il n'y a pas eu d'été chaud comme l'année dernière, mais les Noirs ont trouvé dans les Jeux Olympiques une nouvelle possibilité de s'exprimer. Et les Américains ont réagi. Tommy Smith et John Carlos, les vainqueurs du 200 mètres qui ont brandi leur point noir sur le podium, sont expulsés de la capitale olympique. Une telle décision, bien sûr, ne pouvait que provoquer des réactions.
Cette image de deux athlètes américains sur un podium, le gant tendu vers le ciel comme une menace, la plupart des Américains la verraient à la télévision. Les États-Unis sont en la matière les mieux fournis à l'époque et en 68, la plupart des foyers est équipé de ce meuble allumé toute la journée qui régulièrement se fait l'écho des émeutes dans les ghettos.
All righty, let's check out that Soul Train line now. The Soul Train gang to the music of earth, wind and fire and mighty, mighty.
La télévision américaine, qui se réinvente alors, propose de nouvelles émissions, notamment à destination du public afro-américain. On trouve par exemple Basic Black, une émission hebdomadaire musicale diffusée à Boston dès 68. Et puis il y a surtout le mythique Soul Train, créé par un DJ de Chicago, Don Cornelius, émission d'abord diffusée dans le Midwest, puis rapidement dans tout le pays. Des groupes viennent s'y produire face à un public invité à se trémousser. Pour la première, on est allé chercher des lycéens de Chicago, mais par la suite, le Metro Media Square Studio d'Hollywood verra, une fois par mois, affluer des foules de jeunes, coiffures afro et looks impeccables, des hanchements joyeux. Soul Train qui deviendra l'incarnation de l'Amérique noire branchée. Soul Train sur le plateau duquel ont dansé par exemple en 1971 l'étrange Funky Chicken de Rufus Thomas. Chanteur Rufus Thomas pour ce Do the Funky Chicken, publié en 1969.
Nous n'avons aucune compréhension du capitalisme américain. En ce sens que nous passons au capitalisme
en termes marxistes, plus ou moins, ce qu'on oublie, c'est que le capitalisme fait partie très profondément, non seulement du mode de vie américain, mais de la psychologie américaine, et je vous en apporte la preuve. Parce que les masses noires américaines, ils ne demandent pas le socialisme, ils ne demandent pas le partage égal, elles veulent s'enrichir. Et le grand reproche qu'ils font au communisme, les noirs en Amérique, c'est que le communisme est encore un truc des blancs pour empêcher les noirs américains de, comme ils disent, se faire rembourser. Parce que ce que les Noirs américains réclament, c'est se faire rembourser deux siècles au cours duquel ils ont construit l'Amérique physiquement. Et ils n'ont pas été payés.
Romain Gary sur France Culture en 1970 à l'occasion de la sortie de Chien Blanc. Et de fait, là où les marxistes des organisations noires afro-américaines se trompaient sans doute, c'est que l'Amérique noire avait envie, plus que de renverser la table, de pouvoir profiter, de jouir de la vie. Parmi les showmen alors les plus en vue, on trouve George Clinton, le troisième pilier du funk. Un type né en Caroline du Nord, grandi dans le New Jersey, où, adolescent, il travaillait dans un salon de coiffure. C'est là, dans l'arrière-boutique, qu'à 15 ans, il avait formé un groupe de doo-wop, baptisé The Parliaments, du nom d'une marque de clope. Il avait ensuite écrit quelques titres pour la Motown, mais son groupe ne décollait pas. En 67, son label avait fait faillite et à l'issue d'un procès, il avait dû lâcher le nom du groupe. Parliament était donc devenu Funkadelic et avait radicalement changé de style et de look pour un funk électrique psychédélique traversé par Jimi Hendrix, James Brown ou Sly and the Family Stone. En 1971, Funkadelic sortait son troisième album, Maggot Brain, comprenant ce Can You Get to That.
You sign with love and kisses, later come back, sign insufficient funds. Can you get to that?
I wanna know
if you can get to that. Can you get? Can you get?
Can you get?
I wanna know if you can get to that.
And your loving days are done. A text you signed with the loving kiss a later come back shine. Insufficient fun, y'all get to that.
Can you get to that?
I wanna know.
I wanna know if you can get to that. Can you get? Can you get?
I wanna know if you can get to that. Funkadelic, Can You Get to That, 1971. Et puis il y a les GBs, les musiciens qui, depuis des années, accompagnaient James Brown sur scène et en studio. Un à un, ils avaient quitté le patron en raison de désaccords salariaux. Et en mars 70, ils s'étaient constitués en groupe, derrière notamment Fred Wesley ou Maceo Parker. En 72, ils sortaient ce Gimme Some More avec ses cuivres, ses chœurs et son implacable groove.
Yeah, just give me some more.
Gimme some more, donne-m'en plus. Le funk qui se développe alors partout. au cinéma, à travers les bandes originales de la Bloxploitation, ce genre contestataire développé par Gordon Parks. On pense notamment à Shaft en 1971, mais aussi en 72 à Superfly, dont l'artiste Curtis Mayfield signe la bande originale, dénonçant les ravages de la drogue et des dealers devenus les nouveaux esclavagistes de la jeunesse américaine. Le funk, qui continue par ailleurs de prôner la libération des corps, le sexe libéré, l'autre grande affaire du funk avec la danse. Depuis longtemps déjà, James Brown avait fait sauter les codes, s'opposant en idéal de virilité insoumis. En 1970, il était devenu « a sex machine ». Le funk et cette sensualité échevelée, marquée également par l'incursion de Betty Davis, l'ancienne femme de Miles Davis, qui avait ouvert le jazzman aux nouvelles musiques urbaines, à Sly and the Family Stones ou Jimi Hendrix. Elle, l'ancien mannequin, l'égérie, la muse, avait publié un premier album en 1973, intitulé tout simplement Betty Davis. L'année suivante, elle récidive avec They Say I'm Different, lascif, suggestif, grivois. Un album que nombre de radios américaines censureront, effrayées par l'explosion de cette bombe sexuelle. C'est le temps de l'individualisme, celui où le funk communautaire et engagé s'estompe, laissant la place au disco et à son pur hédonisme. Mais par la suite, Michael Jackson ou Prince creuseront leur propre sillon et se souviendront de cette mémoire soul et funk. De fait, à la manière d'extraterrestres venus de la Chocolate Milk Way, le funk n'a pas dit son dernier mot. They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great-grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it, snuffing boogie, drum on drum. Spit on! They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Get it on! They say I'm different 'cause I'm a piece of sugar cane. And when I kick my legs, oh, I got real fun. My great-grandpa was a blues lover, but he'd be rocking his moonshine to B.B. King and Jimmy Ray. Rock on that! C'est sur ce « They Say I'm Different » signé Betty Davis en 1974 que se referme ce numéro de Jukebox ce soir aux sources du funk, le groove, la sueur et les larmes de l'Amérique noire. Rendez-vous sur franceculture.fr à la page de Jukebox où vous retrouvez la liste des morceaux et des archives diffusées depuis laquelle vous pouvez également, en un clic, exporter les playlists vers les principales plateformes d'écoute en ligne. À lire notamment « On The One », le funk en 100 albums signé Belkacem Mezian et paru cette année chez Le Mot et le Reste, mais aussi James Brown, l'Amérique noire, la soul et le funk de Florence Mazzolini chez Hors Collection. Jukebox, une émission préparée par Seam Boutata, Antoine Villoz, Amélie Briand, le jeune Alina. Ce soir à la technique, c'était Jean-Michel Bernaud, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot, à samedi 19h pour un prochain Jukebox.